Nouvelle 11. L'autographe homicide. J'étais resté absent de Paris pendant quelques mois, fort pris par un voyage d'exploration dans la région nord-ouest de Courbevoie. Quand je rentrais à Paris, des lettres s'amoncelaient sur le bureau de mon cabinet de travail. Parmi ces dernières, une bordée de noir. C'est ainsi que j'éprouvais la douloureuse stupeur d'apprendre le décès de mon pauvre ami Bonaventure Desmachins, trépassé dans sa 28e année. « Comment ? » m'écriai-je. « Desmachins ? Un garçon si bien portant, si vigoureusement constitué ?» Mais quand j'appris, quelques heures plus tard, de quoi était mort Desmachins, ma douloureuse stupeur fit alors place à un si vif épatement que j'en tombai de mon haut, 2,08 m. « Comment ? » me récriai-je. « Desmachins ? Un garçon si rangé, si vertueux ?» Le fait est que la chose paraissait invraisemblable. Pauvre Desmachins, je le vois encore si tranquille, si bien peigné, si bien ordonné dans son existence. Il avait bien ses petites manies, parbleu, mais qui n'a pas les siennes? Par exemple, il n'aurait pas, pour un boulet de canon, acheté un timbre-poste ailleurs qu'à la civette du Théâtre Français. Il prétendait qu'en s'adressant à cette boutique, il réalisait des économies considérables de port des lettres, les timbres de la civette étant plus secs, par conséquent plus légers et moins idoines à surcharger la correspondance. Innocente manie, n'est-il pas vrai? Si Desmachins n'avait eu que ce petit faible, il vivrait encore à l'heure qu'il est. Malheureusement, il avait une passion d'apparence indangereuse, mais qui pourtant le conduisit à la tombe. Desmachins collectionnait les autographes. Il les collectionnait comme la lionne aime ses petits, farouchement. Et il en avait de ses autographes, il en avait, mon Dieu, en avait-il? De tout le monde, par exemple de Napoléon Ier, d'Yvette Guilbert, de Chinchol, de Henri Gauthier-Villars, de Charlemagne. Il est vrai que celui de Charlemagne, j'en savais la provenance, mais pour ne point désoler Desmachins, je gardais toujours à l'égard de ce parchemin faussement suranné un silence d'or. C'était un vieil élève de l'école des Chartes, tombé dans une vie d'improbité crapuleuse qui s'était adonné à la fabrication de manuscrits carlovingiens, ne pas écrire carlovingiens, et qui fournissait à Desmachins des autographes des époques les plus reculées. L'ami qui m'apprenait le trépas de Desmachins en tous ses pénibles détails semblait lutter contre un désir d'aveu. À la fin, il murmura « Est-ce qu'il y a de plus terrible ? C'est que je suis un peu son assassin. » Du coup, ma douloureuse stupeur se teinta d'étonnement. « Oui, » continua-t-il, « le pauvre Desmachins est mort sur mon conseil. Le guillotiner par persuasion, quoi. Oh, ne ris pas. C'est une épouvantable histoire, je vais te la raconter. » Je pris l'attitude bien connue du gentleman à qui on va conter une épouvantable histoire, et mon ami, car malgré tout c'est encore mon ami, me narra la chose en ces termes. Un jour, je rencontrai Desmachins enchantés d'une nouvelle acquisition. Il venait d'acheter un os de mouton sur lequel était inscrit de la main même du prophète un verset du Coran. « Et tu as payé ça ?» lui demandai-je. « Une bouchée de pain, mon cher. C'est un vieux cheikh arabe qui me l'a cédé. Comme il avait absolument besoin d'argent, j'ai pu avoir l'objet pour 3 000 francs. » Matin, pensais-je, 3 000 francs, une bouchée de pain. Ça le remet cher, la livre. Et il m'emmena chez lui pour me faire admirer son nouveau classement. Il avait, disait-il, inventé un nouveau classement dont il était très fier. La vue d'une lettre de Nélaton me suggéra une idée et machinalement je lui demandai « Tu n'as pas d'autographe de Ricord ? Ricord, qui est-ce ? Comment ? Tu ne connais pas Ricord ?» Le malheureux, c'est-à-dire non, le bienheureux, ou plutôt non, le malheureux ne connaissait pas Ricord. Alors moi, je lui dis la gloire de Ricord, et Desmachins résolut aussitôt d'avoir en sa collection un mot du célèbre spécialiste. Dès le lendemain, il alla chez ses fournisseurs ordinaires, pas le moindre Ricord. Chez ses fournisseurs extraordinaires, pas davantage. Desmachins se désolait, s'impatientait, car lui, si calme d'habitude, tournait facilement au fauve lorsqu'il s'agissait de sa collection. Pourtant, rugissait-il, il y a des gens qui en ont de ces autographes. Oui, répliquai-je avec douceur, mais ceux qui les détiennent sont plus disposés à les enfouir dans les plus intimes replis de leur portefeuille qu'à en tirer une vanité frivole. Tu me donnes une idée. Puisque Ricourt est médecin, je vais aller le trouver. Il me fera une ordonnance qu'il signera, et j'aurai un autographe. C'est ingénieux, mais malheureusement, ou plutôt heureusement, tu n'es pas malade. J'ai un fort rhume de cerveau, tu vois, mon nez coule. Ton nez... Je n'achevais pas, ayant toujours eu l'horreur des plaisanteries faciles, mais j'éclairais des machins sur le rôle de Ricourt dans la société contemporaine. 8 jours se passèrent. Un matin, des machins entra chez moi, pâle, mais les yeux résolus. Tu sais, j'y suis décidé. À quoi ? À aller chez Ricourt. Mais encore une fois, tu n'es pas malade. Je le deviendrai. Et précisément, je viens te demander des détails. Je crus qu'il plaisantait, mais pas du tout. C'était une idée fixe. Alors, et ce sera l'éternel remords de ma vie. J'ai eu la faiblesse de lui fournir quelques explications. Je lui conseillais les folies bergères, par expérience. La semaine d'après, des machins m'envoyaient un petit bleu ainsi conçu. Viens voir, je suis au lit, mais qu'importe, je l'ai. Les 3 derniers mots triomphalement soulignés. Oui, termina tristement le narrateur. Il l'avait, et c'est de ça qu'il est mort.